Radio Star.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène à Cuba ce soir où doucement on prépare l'après Castro, l'après Raúl Castro. Le processus électoral commence le 11 mars prochain, il se terminera le 19 avril et je vous emmène voir comment on se prépare, déjà à qui surtout on se prépare là-bas. Florence Paracolos nous racontera comment la Macédoine change de nom et comment Amazon fait travailler ses employés dans les plantes vertes. 18h50, le feuilleton écolo de Sandy Dauphin, l'électricité verdie, figurez-vous, on utilise plus de renouvelables, mais les grosses taches noires sur la carte, ce sont des taches de charbon, toujours en Europe. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers et brise un peu l'auréole au-dessus de la tête de Carles Puigdemont. Mais avant nous partons pour la RDC, la République démocratique du Congo, qui s'enfonce dans l'indifférence de la communauté internationale le plus souvent, et pour le plus grand intérêt vraisemblablement de Joseph Kabila, son président. Le monde est vaste, et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Fès, un jour dans le monde.
La démocratie, j'aime bien, mais la démocratie, ce n'est pas la foire. Moi, je pense que d'ici le mois de mars, on aura une loi qui va recadrer tout ça. Il ne faut pas oublier que la Constitution a prévu effectivement le droit de manifester, mais la même Constitution a aussi prévu que l'autorité administrative peut refuser ou rejeter une demande de manifestation.
Et voilà qui a le mérite d'être clair, c'est le moins qu'on puisse dire, la démocratie j'aime bien, fermez les guillemets. Il y avait 6 ans que le président Kabila n'avait pas donné de conférence de presse, et celle-ci donc juste après des manifestations qui ont fini dans le sang, organisées pour marquer 17 ans de pouvoir, est particulièrement édifiant. 17 ans donc de Joseph Kabila qui devrait avoir quitté le pouvoir depuis plus d'un an, depuis 13 mois même très exactement. Bonsoir Vincent Hugeux.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique pour l'Express. Nous avons décidé, nous, à France Inter ce soir, de braquer nos projecteurs sur cette République démocratique du Congo et nous irons dans un instant, grâce à vous, Mathilde Dehimi, bonsoir à vous.
Bonsoir Fabien.
Nous irons dans cette province du Kasaï qui est un peu le point névralgique, le point symbole, une terre historique d'opposition, on va rarement, sinon jamais. Vous nous expliquerez d'ailleurs pourquoi elle est aussi symbolique. Vincent Hugeux, est-ce qu'on peut juste rappeler quelques évidences sur la RDC? D'abord, 4 fois plus grand que la France, 80 Alors. Millions d'habitants, une population extrêmement jeune et puis surtout un pays très riche. Il y a des mines là-dedans.
On a souvent surnommé la RDC l'ancien Zaïre, le scandale géologique de la planète. Et pour cause, c'est effectivement un pays d'abord où les terres sont extrêmement fertiles et dont les entrailles regorgent de minerais, alors zinc, or, coltan, tout ce que vous voulez. Donc,
diamant.
Si vous voulez, il y a une obscénité, diamant notamment dans la province du Kasaï d'ailleurs. Il y a une obscénité dans ce fossé abyssal entre ce potentiel économique, une population qui est relativement modeste par rapport à l'immensité de la RDC, hein, dernières estimations 87 millions d'habitants précisément, et puis pour prendre un seul indice, le plus pertinent à mon sens, qui est l'indicateur du développement humain du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, puisqu'il combine non seulement le PIB par tête, mais aussi des critères tels que l'éducation, la santé, etc. Eh bien, au dernier pointage, la RDC était 184e sur 188. Voilà ce qu'est la réalité de ce pays aujourd'hui.
Un pays extrêmement jeune, par ailleurs, il faut le souligner. C'est pas seulement, on dit toujours dans ces pays-là qu'ils sont jeunes, moins de 25 ans, moins de 20 ans. Là, c'est moins de 15 ans même, très très jeune.
Très jeune, et d'ailleurs, au passage, on y reviendra sans doute tout à l'heure, la fameuse milice au Kasaï, Kamuina Nsapu, est réputée pour avoir 50% de ses combattants qui ont moins de 14 ans. Alors, cette jeunesse, évidemment, elle rend encore plus anachronique cette sorte d'obstination, d'entêtement de Joseph Kabila. On vient de l'entendre à l'instant, la démocratie, ce n'est pas la foire, dit-il. Oui, mais le déni de démocratie récurrent, c'est le bazar assuré. Et d'ailleurs, je discutais de l'enjeu de la RDC avec un conseiller élyséen hier, qui me disait, si Kabila ne cède pas, c'est le chaos. Mais au fond, le chaos, on y est déjà. Et il y a quelque chose de terrible dans la rémanence de cet incident. Figurez-vous qu'il y a 26 ans, c'était en 92, vous aviez une marche des chrétiens qui voulait la réouverture de ce qu'on appelait la Conférence nationale souveraine à l'époque, puisque Mobutu avait refermé la porte après l'avoir contraint et forcé entrouverte. Bien. Eh bien, qui, à l'issue de ce séisme lié donc aux morts, à cette répression meurtrière, qui avait émergé? Eh bien, c'était le cardinal archevêque de Kinshasa, le même Laurent Monsengwo, Et déjà en 69, vieille histoire, les évêques dénonçaient les tropismes dictatoriaux du régime Mobutu. Donc vous voyez, c'est pas du tout un épisode comme ça venu de nulle part.
Alors historiquement, effectivement, c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'abord, pays très catholique à 80%, c'est aussi pour ça que ça a ce poids-là. Mais est-ce que finalement, l'institution la mieux organisée du pays, c'est celle-là, avec une vraie hiérarchie qui est respectée, et c'est pour ça que l'Église catholique a pris la tête de l'opposition?
Je vais partir d'un exemple très simple et très concret. Avant que je sois de facto interdit de séjour dans ce pays, tout ceci était consécutif à une enquête que j'avais conduite et publiée dans l'Express sur l'assassinat de Floribert Chebeya, qui était une sorte de figure de proue de la société civile, un mouvement qui s'appelait La Voix des Sans-Voix. Donc avant cet épisode, l'une de mes meilleures sources d'information, c'était précisément le réseau des prêtres qui disposaient de moyens qui peuvent sembler aujourd'hui un tout petit peu archaïques, mais efficaces, de communication par des radios, etc. Ils avaient un réseau, il avait tissé comme ça tout un ensemble d'informateurs extrêmement pertinents. Et c'est vrai que il y a toujours eu dans le Zaïr d'hier, dans la RDS aujourd'hui, une imbrication entre la politique et la religion, puisqu'on voit quand même, donc je le disais à l'instant, en 92, quelqu'un qui émerge comme le grand chef d'orchestre d'une conférence souveraine, et c'est précisément le cardinal archevêque de Kinshasa, réputé proche d'ailleurs du pape François, au
passage. Absolument, c'est l'un de ses conseillers les plus proches, l'un des 8 conseillers, donc effectivement extrêmement proche. Est-ce que sa vie est en danger d'ailleurs, ou est-ce qu'il est intouchable parce que justement on le voit, et parce que c'est un conseiller du pape?
On aurait envie de souscrire à la deuxième option, intouchable précisément, comme le gynécologue obstétricien Denis Mukwege, comme l'opposant qui est d'ailleurs interdit de retour en ce moment au pays, cet opposant qui s'appelle Moïse Katumbi, qui était l'ancien grand patron du Katanga. Mais dans un pays où vous avez, au sortir d'une messe dominicale, sur le parvis d'une église de Kinshasa, une paroissienne de 24 ans, par ailleurs fille d'un officier de police, qui est rafalée à la Kalachnikov, je dirais que personne n'est à l'abri. Et il faut dire aussi que ce qui me rend circonspect à l'égard de votre question, c'est que quand on voit à quel point le clan qui est autour de Joseph Kabila est prêt à tout pour maintenir son emprise, eh bien, tout est à redouter. Dernier petit point, petite anecdote, là encore, j'évoquais le cas de Floribert Chebeya tout à l'heure, donc cette sorte d'icône de la lutte pour les droits humains assassiné en 2010. Eh bien, figurez-vous que l'ancien chef de la police, qui s'appelle John Numbi, qui a juste été écarté symboliquement tant il apparaissait comme le commanditaire le plus probable d'un assassinat, d'ailleurs très stupidement déguisé en affaires privées, etc. Eh bien, l'an dernier, même si tout cela est passé inaperçu, il a d'abord été réintégré au sein des forces armées de la RDC, en attente d'affectation. Il reste extrêmement proche de Kabila. Et ensuite, on lui a décerné un ordre national de l'honneur Kabila Lumumba, enfin une sorte de breloque extrêmement prestigieuse dans ce pays.
Je voudrais qu'on parte, on va se retrouver bien sûr, Vincent Huget, vous restez avec nous. Je voudrais qu'on parte pour le Kasaï, province du centre donc de la RDC, en proie à des batailles, des luttes depuis plus de 2 ans maintenant. Tiens, d'abord, juste d'un mot, Vincent, pardon. Pourquoi le Kasaï est si important et symbolique d'ailleurs dans la lutte contre Kabila? Alors, pourquoi c'est le centre névralgique?
Le Kasaï, c'est une province enclavée, plutôt pauvre, en dépit de ce potentiel diamantifère auquel on a fait référence tout à l'heure. Et c'est aussi historiquement un bastion de l'opposition classique, l'opposition historique, ce qu'on appelle l'UDPS, le parti du défunt Étienne Tshisekedi. 75% de suffrages en sa faveur lors de la présidentielle de 2011.
Mathilde Hémy, un tableau d'abord dans cette province du Kasaï où vous avez passé du temps. La situation sanitaire, ça ressemble à quoi?
Elle est catastrophique, d'après les Nations Unies. Ça, c'est clair. On parle d'un million d'habitants en fuite à cause des violences, avec deux conséquences. La faim, d'abord. 3 millions de personnes en insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, c'est le stade juste avant la famine. Et 400 000 enfants en malnutrition aiguë sévère. La deuxième conséquence, et qui est liée, c'est la santé. Plus de paludisme, de fièvre, de tuberculose. Tout ça parce qu'en fait, les familles se sont enfuies et sont restées des mois en brousse.
Donc, situation sanitaire catastrophique, on l'a compris. Situation politique qui ressemble à quoi?
Officiellement, le Kasaï est plus stable aujourd'hui. Ça, ce sont les autorités qui nous le disent. Il y a toujours des accrochages réguliers. Il y a des morts entre 3 et 4 000 selon l'Église catholique. D'un côté, on a une milice, on en parlait à l'instant, les Kamuinan Sapu. Pour faire simple, ils sont contre Kabila. Certains habitants ont placé un espoir en eux avant d'être quand même dépassé par les violences. Et de l'autre côté, on a l'armée congolaise qui a reconquis une grande partie du territoire à coup d'exaction.
Alors la première partie, Mathilde, de votre reportage, ça se passe à Tikapas, c'est la capitale du diamant.
Oui, une ville où se pressent aujourd'hui ceux qui ont fui les combats. Les maisons sont donc surpeuplées, les prix ont flambé et il y a la queue au centre de santé. On y trouve une vieille dame blessée à la cheville en quittant précipitamment son village. On y trouve aussi et surtout beaucoup d'enfants. La salle d'attente est un vieux lit sans matelas posé sur la terre battue. Et c'est au tour de Chiboulané, 17 mois, la peau sur les os.
Ah. Ok, son bras mesure 96 cm, c'est-à-dire il est malnutri, aigu, sévère.
Les infirmiers le posent dans une bassine. La balance indique 6,4 kg, soit 2 bons kilos de moins que la moyenne. Son père est inquiet, Chiboulané a des diarrhées rouges.
Nous avons expliqué, l'enfant est dans les critères. Il doit suivre maintenant la prise en charge d'ici.
Chiboulané sera soigné par l'équipe d'action contre la faim, mais d'autres cas sont plus graves. Des enfants léthargiques, respirant à peine. Cet infirmier en voit de plus en plus.
Aujourd'hui, nous avons eu 53 enfants qui sont malnutris. Mais pour ce mois, on a totalisé 362 cas. Il y en a de plus en plus.
Pourquoi il y a plus d'enfants malnutris ?
Il n'y a pas la paix. Il y a tellement de troubles partout. Il y a toujours des difficultés, l'armée partout. Pour sortir, vous payez quelque chose. Tandis que les gens n'ont pas quelque chose à donner. Nous sommes toujours en danger. L'armée nous fait souffrir ici. Il y a des violences partout. Parce que quand nous vous parlons ici, les autres disent que non, nous ne voulons pas que le président en place soit encore là. Les autres disent non, il est vrai d'être là. À ce moment-là, nous sommes vraiment dans l'insécurité totale.
Alors, je vous le disais tout à l'heure, officiellement, la situation est stable, mais on voit bien avec ce témoignage qu'il y a encore des mouvements de population et des accrochages réguliers entre milices et armées.
Alors, Mathilde, justement, cet homme que vous avez rencontré, qui est là avec son bébé, il dort dans une des très nombreuses églises évangéliques qu'il y a dans la ville, aussi nombreuses d'ailleurs qu'il y a de grossistes en diamants.
Oui, les pasteurs n'ont pas été épargnés non plus par les violences. Derrière un portail, dans une cour, banc en bois et toit en tôle, on distingue à peine dans l'ombre les silhouettes qui regardent vers l'autel. Thérèse s'approche, elle vient du village de Saint, qui a connu l'un des pires massacres du Kassai.
Pendant deux semaines.
Depuis deux semaines, on dort sur un banc à l'église.
Là-bas.
Ouais, j'ai vu des morts dans mon village, beaucoup de morts et des blessés. Je me suis enfuie avec mes trois enfants. Ils m'ont pris toutes mes affaires.
Alors Thérèse nous racontait la difficulté pour elle à survivre dans cet univers.
Voilà, on l'entend de loin.
Oui, voilà. Je l'ai, en fait, elle a dit, moi, je me suis enfuie avec mes trois enfants, ils ont pris toutes mes affaires et mon argent. Derrière, ils nous ont massacrés. Ils sont arrivés de nuit avec des fusils calibre 12, des machettes, des allumettes pour mettre le feu aux maisons, dit Thérèse. Ils ont mutilé, tué parce qu'on était Louba. Ils ont jeté des cadavres dans la rivière. Et qui c'était ? C'était les miliciens Banamoura.
Alors Mathilde, pardon, mais je vais vous poser la question comme ça. Qui soutient qui dans cette histoire ? Qui enferme les civils et notamment cette femme, comme elle le raconte ?
Alors je vais essayer de faire simple. Les Banamoura, ce sont ceux qui sont chargés en fait de faire le sale travail, ici on peut dire. Dans tout le Congo, Banamoura, ça synonyme plutôt de garde républicaine, mais au Kassai, c'est plutôt des groupes armés, vraisemblablement avec l'appui officieux des autorités, et qui chassent tous ceux qui contestent le pouvoir. Dans le village de Thérèse, par exemple, ils ont massacré une ethnie, les Louba, car la crise a ravivé ces tensions communautaires, confirme Sylvain, il est pasteur à Loubami.
Nous avons eu peur de rester là-bas puisqu'il y avait une tribu qui a commencé maintenant à attaquer une autre tribu, comme les Banamour. Ils ont dit que comme vos frères ont commencé à troubler nos villages, vous ne devez pas rester ici, vous devez partir. Ils nous ont fait des bruits, nous avons quitté là-bas à pied jusqu'ici.
Et pour les pasteurs, comme pour les autres, la vie à Chikapa en exil est compliquée, dit José Kouaï.
On passe nous ici, dans des bancs ici, quand il y a de la lumière, quand il pleut, c'est grave. Chacun cherche comment se débrouiller, c'est difficile, puisque pour trouver à manger ici, il faut se débrouiller. Je suis ici, je me débrouille, je suis passé, non, j'ai ma Bible à main, je prêche. Même le long de la route comme ça, je commence à crier. Recevez Jésus-Christ, comprenez comment Jésus est bon. Et donnez les offrandes, ça m'aide aussi à la maison.
C'est le révérend Floribert qui les accueille dans son église avec 60 familles sans aucune ressource qui vivent ici.
Bon, il n'y a pas moyen de déterminer le temps qu'ils vont faire ici. Ils ont déjà fait à peu près un an ici. Il y a d'autres qui continuent à venir puisque les troubles continuent toujours. Il n'y a pas moyen de rester là.
On nous a dit que la région était plus stable maintenant.
Bon, pas du tout. La stabilité se trouve ici en ville. Mais à l'intérieur, il y a toujours du trouble.
On l'a dit, l'Église catholique demande à Joseph Kabila de se retirer de la course présidentielle. Plusieurs communautés religieuses sont sur cette même ligne, mais le révérend Bruno, lui, joue la prudence.
Nous ne sommes pas de l'Église catholique. Chaque Église a sa doctrine. L'Église est apolitique pour nous. Alors nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est leur doctrine. Mais nous, nous ne pouvons pas nous ingérer dans ces choses. S'il y a l'élection, c'est bien. S'il y a déjà un chef, un autre gouvernement ou le même gouvernement, celui qui va passer, il va maintenant mettre la paix et chacun maintenant va chercher à rentrer chez soi.
Derrière nous, Fabienne, un homme s'est glissé dans l'ombre. Il écoute notre conversation. Est-ce que c'est un simple fidèle? Est-ce que c'est un des nombreux agents de renseignement? On ne le sait pas, mais ça a pesé très clairement sur la parole de nos interlocuteurs.
Mathilde Hémy, merci mille fois. Évidemment, Vincent Hugeul, les catholiques qu'on entendait là, est-ce qu'ils ont été ralliés par les protestants, par les musulmans? Est-ce qu'il y a un vrai front ou pas?
Actuellement, je veux dire, le noyau dur de la contestation, c'est quand même l'Église, je dirais, catholique et romaine. Parce que vous avez eu,
qui sont les plus nombreux,
dans l'ex-Zaïre, comme dans beaucoup de pays subsahariens, une éclosion un peu anarchique d'Églises dites évangéliques, parfois autocéphales, et parfois animées par des hommes mus davantage par l'appât du gain que par la diffusion de la parole du Christ. Bien, donc, très clairement, l'Église catholique apparaît comme l'adversaire numéro un aujourd'hui. Et n'oublions pas, encore une fois, le contexte. C'est-à-dire qu'on a un article 70 de la Constitution de la RDC qui dit que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et il est évidemment, à juste titre, soupçonné, Joseph Kabila, d'essayer de trouver un stratagème. Déjà, il va avoir, grosso modo, 2 ans de mandat cadeau, comme on dit en Afrique, c'est-à-dire au-delà du terme échu de son second mandat. Et on fixe maintenant, au 23 décembre 2018, à la fin donc de cette année, une élection présidentielle qui reste, à mes yeux, hautement aléatoire.
Pourquoi on s'en fiche, nous, la communauté internationale? Et vous savez pourquoi je vous pose la question? On vient nous chercher sur la question migratoire, etc. Pourquoi on ne fait rien? Pourquoi on ne regarde pas? Pourquoi on ne dit rien?
Il faut revenir pour esquisser une réponse à cette question à la genèse du pouvoir de Joseph Kabila. Son père Laurent Désiré, qui a mené la révolution militaire contre Mobutu, est assassiné en janvier 2001. Joseph, son fils, est propulsé comme chef d'État à titre intérimaire à l'époque par, je dirais, la cohorte des galonnés qui gravitaient autour de son père. Joseph a une esquisse de formation militaire qu'il a reçue auprès d'un conseiller de Paul Kagame, le Rwandais, mais aussi en Chine. Et en réalité, donc, ce pouvoir intérimaire va perdurer 17 ans aujourd'hui. Il est élu officiellement en 2006, réélu en 2011. Et c'est ce qui explique aussi que, dans un premier temps, la déstabilisation de ce pays-continent angoissait tellement l'Occident, l'ONU, etc., que nous avons fait preuve d'une immense mansuétude pour celui qu'on surnommait à l'époque le Petit Joe. Le problème, c'est que le Petit Joe a grandi, mais qu'il n'a pas grandi en bien, et que depuis lors, il a durci son pouvoir en menant une sorte de chantage, ce que j'appelle le chantage pékinois, c'est-à-dire que lorsqu'un ambassadeur, je me souviens des confidences d'un Français en la matière, va le voir en lui disant quand même qu'il faudrait vider les culs de basse-fosse de ses prisons et montrer un tout petit peu plus de respect pour les droits élémentaires, il regarde, il fait le taiseux, il fait le rugueux, et puis il lui dit, écoutez, vous me cassez les pieds avec vos histoires de droits de l'homme, moi, les Chinois frappent à la porte. Donc il a en permanence eu ce type de réaction, ce qui a permis de tenir à bout de gaffe les exigences démocratiques occidentales.
Une dernière chose, parce que vous avez cité son nom, Paul Kagame a pris hier la tête, ou avant-hier je crois, la tête de l'Union africaine. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça joue? Est-ce qu'ils peuvent se parler? Est-ce qu'il peut lui dire quelque chose ou pas du tout?
Vous savez, l'histoire est très complexe entre le petit Rwanda qui a parfois, d'une certaine manière, dominé l'immense ex-Zaïre. Relations complexes, ils ont été, d'une certaine manière, à un moment alliés objectifs, à d'autres moments ils ont été ennemis. N'oublions pas que la RDC a aussi été le théâtre pendant des années d'un conflit où vous aviez 6 contingents étrangers qui menaient une sorte de guerre par procuration sur le grand champ de bataille congolais. Le problème de Kagame, il est assez simple en deux mots, c'est que bien sûr, il est adossé à une formidable légitimité. Il est celui qui a mis fin au génocide de 1994. Mais en même temps, il en fait une sorte de rente de situation politique inépuisable. Et chaque fois que vous émettez une critique envers lui, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur, il vous accuse de révisionner sionisme et de complaisance vis-à-vis des génocidaires. Et il a fait de son pays un des pays les plus sûrs, par exemple, pour l'investissement, un de ceux où la corruption est la moins dévastatrice, mais tout ça se paye en termes de liberté politique d'un prix prohibitif.
Merci beaucoup, merci mille fois Vincent Hugues. Merci à vous Mathilde Hémy, bien sûr, votre reportage, vos reportages, on les voit, on les lit, on les regarde, on les écoute sur franceinter.fr et puis on regarde surtout les photos magnifiques de Guillaume Binet qui vous a accompagné. Il a un site internet, Guillaume Binet également, vous le trouverez sur mon compte Twitter, Fab Synthèse. Merci beaucoup, merci à tous les deux.
France Inter, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, c'est à Cuba qui prépare doucement l'après-Castro. Et là, pour le coup, tiens, on parle d'élection, on verra bien comment ça se passera. C'est pour le mois de mars. Nous allons en Macédoine qui change de nom. Et pardon de l'expression, c'est une drôle de mayonnaise. Sandy Dauphin et la chronique écolo dans Un jour dans le monde. Alors on devient champion du renouvelable, paraît-il.
Oui, on essaiera de comprendre un paradoxe. La part de l'électricité verte augmente en Europe. Et pourtant, dans ce secteur, les émissions de CO2 stagnent.
Et Jean-Marc Four, à 18h55, Jean-Marc, le monde à l'envers et la Catalogne à l'envers ce soir.
Oui, j'ai un faux air de John Lennon, j'ai failli rentrer à Barcelone aujourd'hui et je ne suis pas un enfant de cœur, je suis Carles Puigdemont.
Mais vous ne savez pas où je suis, très concrètement, allez à tout de suite. Le tour de la planète fait escale en Géorgie, voici Little Richards, Lucille. Lucille, Little Richards sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, Florence Paracuelos, avec l'information internationale dénichée par vous, voici l'histoire d'un pays qui va donc changer de nom. Et ce pays dont vous entendez l'hymne national, c'est la Macédoine, ex-république fédérée de Yougoslavie. La Macédoine est indépendante depuis 1991. Et depuis 1991, la Grèce lui demande de changer de nom. Alors pourquoi ? Parce que la Grèce estime que seule sa Macédoine est légitime, sa province nord, ancien royaume d'Alexandre le Grand, frontalière avec la République de Macédoine, de culture et de population slave. Des négociations ont été relancées sur ce changement de nom il y a 15 jours, sous l'égide de l'ONU. Et les Macédoniens grecs mettent la pression. Ils ont massivement manifesté à Thessalonique il y a 10 jours. 90 000 personnes emmenées par des groupes nationalistes et d'extrême droite. Leur discours est le suivant au micro d'Euronews.
Il n'y a aucune raison de discuter d'une évidence. Les Slaves sont arrivés bien après Alexandre le Grand et ils n'ont rien à voir avec la culture grecque. Pour commencer une véritable conversation, ils doivent d'abord d'abord cesser leur politique agressive visant à détourner notre histoire ancienne.
Voilà, grande crispation des Grecs macédoniens qui accusent leurs voisins d'arrière-pensée territoriale. Alors pour liquider le conflit, la Grèce aujourd'hui pose ses conditions. Il faudrait que le nouveau nom de son voisin soit intraduisible en grec. D'ailleurs, elle va faire des propositions. Et les Macédoniens donnent plutôt des gages de bonne volonté. Il y a quelques jours, à Davos, Tsipras, le grec, a rencontré son homologue macédonien qui a dans la foulée annoncé que l'aéroport de sa capitale, Skopje, ne s'appellerait plus l'aéroport Alexandre le Grand. Idem pour l'autoroute Alexandre le Grand, rebaptisée autoroute de l'amitié. Si ça, c'est pas un
très joli
de bonne
symbole.
Volonté. Voilà.
On file à Seattle, maintenant dans le monde merveilleux d'Amazon.
Seattle, fief de la firme mondiale de commerce électronique. Hier, son patron Jeff Bezos y a inauguré The Spheres. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, Fabienne ?
Allez-y.
Comme leur nom l'indique, ce sont trois globes de 40 mètres de diamètre, à peu près en plein centre-ville. Des globes de verre et d'acier qui abritent des plantes tropicales. 40 000, ce sont des serres, donc, avec des espèces qui poussent plutôt en altitude, parce que sinon, il ferait trop chaud et trop humide pour y travailler. Bah oui, le but c'est d'y travailler, comme l'explique le botaniste en chef d'Amazon.
L'idée c'est de connecter les salariés avec la nature, de les emmener loin de leur environnement de bureau. D'ailleurs, vous ne voyez aucun poste de travail alentour. Vous êtes complètement immergé dans la nature.
Oui, il n'y a pas de poste de travail. Il y a des petites tables, il y a des promontoires qui donnent
comment on travaille,
sur les branches d'un ficus géant. Ben, on vient avec son portable, son téléphone.
On travaille sur les branches du ficus.
Et on travaille sur des espèces de petites tables de bistrot très sympathiques qui ne font pas du tout effectivement ambiance de travail. On est formidablement immergé dans cet environnement. Il y a une cascade d'eau, des plantes, donc des tas de plantes. Et évidemment, tout ça, c'est pour les gens du siège, loin des conditions de travail des manutentionnaires dans les entrepôts Amazon qu'on connaît chez nous en France et là-bas aussi. Donc pour les créatifs, il est de bon ton de se mettre au vert pour travailler, c'est la tendance. Ça accroîtrait la productivité. Tous les GAFA s'y mettent. 9000 arbres sur le campus d'Apple, des cabanes et des chemins pour marcher ou faire du vélo prévu chez Microsoft et un nouveau complexe en terrasse chez Google avec un sentier extérieur pour descendre ou monter d'un étage à l'autre. Ben voilà, on va demander des plantes dans le studio, par exemple, des plantes vertes.
On peut demander des plantes vertes dans le studio. Regardez, il y a Jean-Marc Four qui est déjà là, comme il dit rien, ben, c'est presque ça.
Ah, voilà.
Hein, allez, vous voulez nous parler de Chopin, peut-être ?
Oui, oui, oui.
Parce que les plantes, c'est bien, mais la musique, c'est bien
exactement,
aussi.
Exactement. Avis aux fous de Chopin, il y en a. Son œuvre, l'ensemble de son œuvre, va être numérisé bientôt. C'est l'Institut polonais Frédéric Chopin qui l'annonce aujourd'hui, qui se lance dans cette forme de postérité totale, parce que toutes les partitions, tous les manuscrits, toutes les photos, tous les autographes, les archives, tout cela sera accessible à tous, mélomanes, musiciens, chercheurs, gratuitement. C'est la première fois qu'on ouvre à ce point l'œuvre d'un musicien. Et grâce notamment à un logiciel mis au point avec l'université de Stanford, on va pouvoir faire plus que télécharger les partitions. On va pouvoir faire des recherches précises, comparer les mélodies, les rythmes, les harmoniques. Alors évidemment, tout ça, c'est un peu pour les spécialistes.
Mais c'est pas grave.
Mais ouais, c'est assez extraordinaire. On pourra aussi tout simplement rechercher le morceau que l'on veut écouter comme cet indépassable nocturne, opus 9, numéro 1, évidemment.
Allez, merci Florence. On serait bien resté avec Chopin, mais on n'est pas d'ici.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Beyrouth, France Inter.
Et le reportage d'un jour dans le monde ce soir nous emmène donc à Cuba, où l'on planifie peu à peu le moment historique, là pour le coup c'est vraiment le cas, qui verra le départ de Raúl Castro un an et demi après la mort de Fidel Castro. Un long processus, il commence le 11 mars avec des élections locales, et puis le remplacement de Raúl Castro est prévu pour le 19 avril. En attendant pas grand chose, statu quo sur les réformes économiques, sachant que si le parti communiste cubain ne désigne pas de candidat, il contrôle quand même beaucoup ce processus. Bonsoir Roman Frachon.
Bonsoir.
Roman, avant de nous plonger dans La Havane, un petit bout de contexte. D'abord, grâce à cet ancien diplomate cubain, il s'appelle Gabriel Calafora.
Je crois que ce gouvernement a été le meilleur de l'histoire de Cuba. Parce qu'ici, il n'y a jamais eu de vraie démocratie. Le problème, c'est que beaucoup de mesures n'ont pas pu être menées à terme. Je ne vote plus, mais si nous avions un autre régime, je voterais pour ce même parti au pouvoir.
Et voilà qui nous plante le décor, Roman. Et ce qui frappe, c'est que même si ces élections sont cruciales pour l'île, les prochains mois, finalement, sont plus que prévisibles pour la plupart des Cubains.
Il n'a jamais été annoncé officiellement, mais pour beaucoup de Cubains, Miguel Díaz-Canel sera le prochain président de Cuba. Il faut dire qu'il a dernièrement gagné en visibilité médiatique au point de remplacer Raúl Castro lors de certains discours. Jeune cinéaste, Joel Leyva n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit de critiquer l'homme qui dirigera certainement son pays dans quelques mois.
C'est un dirigeant qui arrange bien le parti. Il n'a jamais exprimé une vision de changement. Imaginez une école qui enseigne à être le dirigeant parfait pour le statu quo de Cuba. Eh bien lui, ce serait l'élève exemplaire.
Quant à l'opposition, pour Joel, elle n'est pas crédible puisqu'elle dépend souvent des États-Unis. Lui-même a refusé le financement d'une organisation anticastriste basée à Miami.
Je ne peux pas concevoir le fait de recevoir de l'argent de l'étranger pour faire une révolution à Cuba. Celui qui paye, c'est celui qui décide. On a besoin d'un projet pour les Cubains, qui répond aux besoins des Cubains, pas aux besoins d'un autre pays. Il n'y a qu'un pas entre accepter de l'argent et vivre de cet argent.
De cet argent, Ella Gomez y a vécu quelques années. Ancienne traductrice de Fidel Castro, elle s'est réfugiée en Allemagne de l'Ouest dans les années 80. Revenue vivre à Cuba, elle se met alors à militer pour un changement de régime pluripartiste.
Si nos dirigeants sont si convaincus que la ligne politique du parti est parfaite, qu'elle répond aux besoins du peuple, ce serait une preuve d'intelligence de permettre à d'autres partis de se présenter librement. Tout comme l'ouverture qu'il y a eu avec notre population, le droit de voyager et de revenir à Cuba, je souhaiterais désormais que chaque individu soit rémunéré pour la quantité de travail accompli. Cela amènerait une évolution substantielle dans toute la société.
Pour autant, ils sont plusieurs à douter qu'un changement de système électoral soit une réponse aux problèmes de Cuba. Parmi eux, Eric Gonzalez, représentant à La Havane de l'ONG italienne Troisième Paradis.
Je ne pense pas que s'il y avait plusieurs partis à Cuba, cela ferait changer les choses, quelle que soit la situation. Ce serait rejoindre une idée de la démocratie qui ne me semble pas non plus très fonctionnelle. Un système où les mêmes partis traditionnels se passent le pouvoir, je ne crois pas que ce soit plus démocratique.
Gabriel Calafora est ancien ambassadeur de Cuba en Inde. Accusé d'être opposant en 1992, il est enfermé quelques mois dans la prison de Villa Marista, célèbre pour ses prisonniers politiques. Le diplomate a une toute autre inquiétude, la récente absence médiatique de Raúl Castro, notamment lors du passage de l'ouragan Irma en septembre. Il pense que, comme son frère aîné, avant de mourir, il est gravement malade.
Si jamais Raúl meurt avant l'élection présidentielle, ça va être le chaos. L'armée prendrait alors les commandes du pays. Il est vrai que l'armée contrôle déjà une grande partie de l'économie du pays. Mais un gouvernement militaire, le seul pays qui le reconnaîtrait serait le Venezuela.
Avec les sanctions prises par Donald Trump et la crise vénézuélienne, le diplomate estime que Cuba n'a jamais été aussi instable depuis la crise des missiles. Mais il reste positif, selon lui, cela va provoquer un débat interne devenu plus que nécessaire.
Allez, merci Roman Frachon pour ce petit aller-retour à Cuba. On a pris date, en tout cas pour le 11 mars, le 19 avril prochain, et ces élections, comme on l'a entendu, qui promettent d'être historiques.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Esse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
L'actu en série du mardi, c'est vous, Sandy Dauphin, qui semaine après semaine essayez de verdir et refroidir la planète. C'est pas toujours facile. Sandy, ce soir, cependant, une bonne nouvelle peut-être, les énergies renouvelables sont en plein boom, mais si l'électricité en Europe verdit, on n'a pas encore tourné le dos au charbon, l'énergie qui émet le plus de gaz à effet de serre, donc on se mord un peu la queue. Bonsoir Sandy, à vous.
Bonsoir.
Avec un nouveau rapport européen sur lequel vous venez publier aujourd'hui, qui confirme ces deux tendances, donc on commence par la bonne nouvelle. Pour la première fois en 2017, le vent, le soleil et la biomasse, pardon, ces trois nouvelles énergies propres ont produit davantage d'électricité que le charbon en Europe.
Et oui, c'est une petite révolution, car il y a 5 ans, c'était l'inverse. Le charbon produisait 2 fois plus d'électricité que ces 3 énergies renouvelables réunies, l'éolien, le solaire, la biomasse. Vous savez, c'est cette énergie produite par la combustion des déchets végétaux.
Ah ben voilà.
Ces énergies propres, oui, je sentais que vous cherchiez un,
mais
peu.
Un petit peu.
Ces énergies propres ont progressé de 12% en Europe l'an dernier. Elles ont pris le pas sur la plus vieille énergie renouvelable, l'hydraulique, on en sait quelque chose dans les Alpes, qui a connu une très mauvaise année en 2017 en raison de la sécheresse, on l'a vu notamment sur les barrages français. C'est donc un rapport publié aujourd'hui qui dresse ce constat. 2 think tanks des groupes de réflexion, Agora et Sandbag, qui ont pignon sur rue à Bruxelles. Ils ont compilé toutes les données 2017 disponibles dans le secteur électrique européen et leurs prévisions sont plutôt rassurantes. Si le rythme se maintient, en 2030, 50% d'électricité pourrait être fournie par des énergies propres en Europe contre 30% aujourd'hui.
Mais avec une Europe à plusieurs vitesses.
Oui, vous avez d'un côté un pays comme le Danemark qui produit les 3/4 de son électricité grâce aux nouvelles énergies renouvelables, le vent, le solaire et la biomasse. Donc, à l'inverse, la Slovénie qui n'en produit que 4%. La France est dans le ventre mou à 8%, loin derrière les 2 locomotives que sont l'Allemagne et le Royaume-Uni qui construisent des éoliennes à tout bout de champ sur terre et puis en mer.
Alors la part des énergies propres donc augmente en Europe et pourtant, Sandy, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse. Alors comment c'est possible ça ?
Eh bien c'est le paradoxe. En 2017, ça s'explique parce qu'il y a eu une augmentation de la demande en électricité et qu'on a fait appel aux énergies fossiles pour combler cette demande, pas tant au charbon, la part du charbon a diminué, mais à son cousin encore plus polluant, le lignite, produit essentiellement en Allemagne, en Pologne et en République tchèque. Les précisions de Dimitri Pechia, spécialiste de la transition énergétique pour le think tank Agora qui publie ce rapport.
C'est en particulier qu'en 2017, on a consommé davantage qu'en 2016 d'électricité. Donc même si on augmente la part des renouvelables, il faut bien couvrir une consommation supplémentaire. Elle a été en particulier couverte par le lignite. Et par ailleurs, on a un véritable problème structurel en Europe aujourd'hui, c'est qu'on ne donne pas un prix à la tonne d'émissions de CO2 qui est émise par les centrales à lignite. Et donc elles sont aujourd'hui ces centrales très compétitives sur le marché électrique. Ce qui fait que sans donner de véritables contraintes sur le CO2, on continuera à brûler du lignite en Europe.
Et vous voyez la difficulté à parler d'une seule voix en Europe quand Emmanuel Macron dit « il faut un prix carbone élevé ». Eh bien, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de l'Allemagne ni de la Pologne qu'on taxe leurs centrales à charbon. Et pourtant, les 258 centrales à charbon d'Europe sont responsables de 15% du total de nos émissions de gaz à effet de serre.
Sandy Dauphin dans Un jour dans le monde, merci.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse. Sur France Inter.
Et le monde à l'envers, signé Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Rebonsoir.
Tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, un pied en Catalogne et un pied en Belgique, c'est pas facile pour marcher. On a appris cet après-midi que le Parlement de Barcelone avait reporté donc l'élection du chef de l'exécutif catalan, tout en affirmant derrière, nous ne présentons pas un autre candidat que Carles Puigdemont. Nous voilà donc avec ce monsieur, et vous vous dites, Jean-Marc, en prenant le contre-pied comme chaque soir, que Puigdemont n'est pas vraiment un saint.
Au premier coup d'œil, je sais pas si vous êtes comme moi, Fabienne, moi je trouve que le personnage possède un côté sympathique, hein, avec sa mèche façon Beatles, ses lunettes d'intello. Il a un petit air romantique, vous savez, un je ne sais quoi échappé de Châteaubriand face à la mer. Vous voyez, en plus, il s'est fait tout seul, c'est tout à son honneur. C'est un fils de pâtissier qui a fait carrière dans le journalisme, puis la politique. Il parle 5 langues. Ajoutons une pincée de Bonaparte. Vous voyez, l'exil à l'île d'Elbe, en l'occurrence Bruxelles, et puis un petit parfum d'Arsène Lupin, cache-cache avec les autorités espagnoles. Parviendront-elles à l'attraper? Presque tout pour séduire. Sauf que, vous voyez où je veux en venir,
ben oui.
L'habit ne fait pas le moine. Arrêtons-nous d'abord sur le comportement de Carles Puigdemont. Sur Twitter, il signe de l'acronyme KRS pour Carles, on fait mieux dans le genre modeste. Et surtout, depuis sa fuite de Barcelone, son comportement est quand même un peu erratique. Certains de ses partisans trouvent même qu'il pousse un peu le bouchon en se prenant pour le grand leader indépendantiste en exil dont le destin est un jour de revenir sur la terre promise. En attendant, et ça c'est plus prosaïque, il a quand même un peu fichu le camp et laissé ses partisans au moment où ça devenait rock'n'roll, le tout pour éviter la prison, ce que n'a pas fait son principal allié, Oriol Junqueras. Lui, il est derrière les barreaux.
Alors, Jean-Marc, est-ce qu'on peut d'abord faire un bilan de son action à la tête de la Généralitat de Catalogne et puis surtout parler de son programme?
Alors, si là, c'est, on peut dire que ce n'est pas un saint non plus, hein, ou alors c'est un saint, on va dire, monomaniaque, c'est-à-dire que son obsession, c'est l'indépendance. Il veut bien négocier avec Madrid, mais uniquement si la négociation porte sur les conditions de l'indépendance, ce qui limite un peu le champ du débat. Mais bon, l'indépendance, ça ne fait pas l'alpha et l'oméga de toute politique. Donc, par exemple, que veut Carles Puigdemont en matière de droit du travail, d'éducation, de santé? Là, ça devient un peu plus flou, surtout au vu de la coalition assez composite qu'il soutient, extrême-gauche, nationaliste, centre-droit de tradition affairiste, etc. Bon, alors effectivement, pour se faire quand même une idée, on peut prendre le bilan de la mandature précédente. L'obligation de l'enseignement catalan, mais qui peut conduire à un repli identitaire dans une région traditionnellement ouverte au monde. Financement sur la santé et l'éducation, assez faible, malgré la bonne santé économique de la Catalogne. Et même si cette santé économique est indéniable, grâce au tourisme, aux banques, à l'automobile, tout n'est pas rose pour autant. L'endettement est très élevé, 75 milliards d'euros. Donc on peut la jouer façon de Gaulle et sauter comme un cabri en criant « indépendance, indépendance, indépendance ». Mais ça ne fait pas une politique à soi tout seul.
Alors, il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas contester, Jean-Marc, c'est la réalité du sentiment indépendantiste en Catalogne. Ça, ça existe. Et puis on ne peut pas l'enlever à Carles Puigdemont.
Oui, ça c'est vrai. Ce sentiment est fort. Celles et ceux d'entre vous qui ont mis les pieds à Barcelone le savent. Sauf, et là je sens que je vais encore me faire des amis, sauf que ce sentiment est fondé en partie sur une forme de reconstruction du roman national catalan. Oui, il y a une identité, une langue, une culture, c'est vrai. Mais de là à laisser penser, comme le fait Puigdemont, qu'il y aurait une Catalogne héros de la démocratie face à une Espagne aux penchants dictatoriaux, alors là, il pousse un peu. Un, la Catalogne n'est pas exclusivement un berceau républicain. Il y a des élites catalanes qui ont été dans le soutien au franquisme. Et deux, l'Espagne, malgré son passé autoritaire, Primo de Rivera, Franco, n'en est pas moins devenue aujourd'hui une démocratie solide. Il y a donc une forme de caricature, si vous voulez, avec un peu de condescendance côté Barcelone. Il y a d'ailleurs une plaisanterie de mauvais goût qu'on entend parfois là-bas. L'Afrique commence au sud de l'Ebre, autrement dit au sud de ce fleuve qui sépare le nord-est de l'Espagne, la Catalogne notamment, du reste du pays.
Alors Jean-Marc, une toute dernière chose, comment on sort de ça?
On n'en sort pas. On n'en sort pas parce que cette reconstruction crée du jusqu'au boutisme. Et on en sort d'autant moins, mais ça on en parlera davantage une autre fois, que de l'autre côté, le pouvoir central espagnol, Mariano Rajoy, adopte la position symétrique par calcul politique pour souder ses troupes, autant psychorigide, autant jusqu'au boutiste, usant de l'arrestation et de la matraque dont chacun sait à quel point c'est l'incarnation de la négociation et de la bienveillance.
Jean-Marc Four qui met le monde à l'envers tous les jours dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. À demain, le 18-20, continue avec le journal de Sébastien Paour et puis le téléphone sonne, on parle de très grande vieillesse ce soir, il est 19h.